Alternatiba 2017. L'équipe d'Ondes Courtes est allée capter les conférences lors de l'édition Alternatiba 2017.
Ce n'est pas l'atelier de construction, ce n'est pas l'ensemble de matériaux, ce n'est pas l'ensemble de biosystèmes, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Mais pour le moment, ces choses sont séparées. Et donc, comme la France est le pays où on a qui consomme le plus de médicaments au monde, et celui qui consomme le plus d'antidépresseurs, on peut se poser comment se fait-il qu'un pays aussi développé, soi-disant que la France, soit aussi malade que la France. Donc, les raisons qu'on peut invoquer, c'est qu'effectivement, il peut y avoir d'autres éléments dont la médecine ne comprend pas. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, quand on appelait la maison la troisième peau, c'est qu'on donne un sens différent. La troisième peau, donc, ça fait partie du vivant. La maison fait partie du vivant. Et lorsqu'on regarde dans les anciennes traditions datent de 9000 ans. La tradition européenne a disparu depuis très longtemps. Le pape et les empereurs sont occupés de se débarrasser de toutes les personnes qui avaient une vision plus large que la vision des catholiques. Et ensuite, ces traditions, on les retrouve. On les retrouve en Chine avec le Pechu et en Inde avec le Watsi. Donc pour le moment, nous, alors, en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, quand j'ai commencé mon métier, j'avais déjà un passé de maçon. Je vais passer de maçon et d'entrepreneur. Et quand j'ai fait l'architecture, j'avais pas beaucoup d'intérêt pour Le Corbusier. Alors qu'à l'époque, Le Corbusier, c'était le maître à penser. Pour moi, c'était pas le maître à penser. Donc, je m'intéressais plutôt aux énergies renouvelables et au solaire. Donc, tout de suite, je me suis installé comme architecte en maison bioclimatique. Maison bioclimatique, donc ça veut dire que j'allais me préoccuper des apports directs gratuits. Et à l'époque, quand on commence, il y avait Odeio et le pot solaire, les premières maisons solaires, qui avaient des murs trombes. Trombe, c'était le nom de l'ingénieur, et Michel, c'était le nom de l'architecte, qui étaient les premiers bâtiments en terre, les premiers bâtiments utilisant l'énergie solaire. Mais c'était des bâtiments entièrement en béton. Moi, je suis tactile, j'aime pas le béton. J'aime pas le béton, je travaille avec des matériaux, et le béton, j'avais un rejet du béton. Donc on s'est dit, on va faire autre chose, on va essayer de travailler les matériaux locaux. Et des matériaux locaux, on a cherché à travailler avec, des adobes, et puis il y avait des personnes qui avaient connu les adobes, vu des gens qui faisaient des adobes, mais des gens qui avaient fait des adobes il y a un peu. Donc on s'est mis à faire des briques de terre compressées en faisant nos premières presses. Puis cette première presse était très mauvaise, on a fait une deuxième presse. Puis après, on est arrivé à avoir un matériel que vous avez présenté avant, de la presse CO50, qui nous permettait de faire des briques correctes dans un temps convenable. Et on a fait une première maison comme ça, avec des presses de terre. Alors pourquoi la terre, c'est intéressant? Alors évidemment, la terre, ça a un rôle thermique. Un rôle thermique, ça a un rôle acoustique. C'est un matériau de terre, c'est un matériau abondant, c'est un matériau peu cher, et c'est un matériau qui ne se dégrade pas, il n'y a pas de déchets. Et donc, dans ce sens-là, on était très en avance. Mais alors, donc, on a eu cette attirance pour la terre, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des congrès mondiaux. Et le premier congrès mondial s'est passé à Sion. Le premier congrès mondial d'architecture de terre a eu à Sion en 1985. On était en train de faire le centre de terre de la Valette, on construisait notre bâtiment en terre en 1985 et je me retrouve au congrès mondial Action en 1985. Et à ce congrès mondial, il y avait un rapport qui a été fait par l'université de Sion, fait par à la fois des médecins et des architectes. En fait, c'était un couple, mari et femme. Le mari était pro d'architecture et la femme était Le mari était pro architecture et la femme était pro de médecine. Et donc, ce rapport concernait concernait la qualité de vie, de la santé des personnes vivant dans des bâtiments, de différents faits des bâtiments matériaux. Et effectivement, ils ont travaillé sur 200 ou 300 maisons, et ils se sont rendus compte que dans les bâtiments en terre, en particulier les bâtiments trop petits, si on s'était une ville des maisons, des bâtiments, des appartements trop petits, et ils se sont rendus compte que dans ces bâtiments, on consommait moins de médicaments. Ensuite, qu'on consommait, qu'il n'y avait pas de maladie de voie respiratoire et pas de maladie de peau. Et globalement, qu'on était moins malade dans ces bâtiments, ce qui a permis de les appeler les demeures immortelles. Les demeures immortelles. Donc, lorsque j'ai eu ce rapport, en revenant en France, je suis monté au CSTV et j'ai dit voilà un travail important qui a été fait. Un travail d'analyse, il serait intéressant d'en tenir compte. Ce serait quand même, c'est un bon document. Et donc, ils ont été un petit peu surpris, et puis il y en a un qui a rigolé. C'est merveilleux, et tout le monde s'est merveilleux, tout le monde s'est moqué de moi. Moi, je suis rentré chez moi, avec mon rapport, qui n'a servi qu'à moi. J'étais convaincu. Et ensuite, quand j'ai continué à faire des bâtiments, les exemples qui sont présents sur le tableau. Donc j'ai quand même beaucoup conseillé en termes. Mais je ne pouvais pas évoquer cette relation entre matériaux et médecine. Bon, on sait que la terre est un matériau in, donc est un matériau imposant. Et on sait que la terre est un matériau qui est lourd, donc qui protège des bruits extérieurs, et on sait que la terre est un matériau peu réverbérant. Donc on a un climat intérieur qui est beaucoup plus intéressant. Et on pouvait, et en même temps, c'est un matériau qui servait à l'époque de stockage d'énergie. Donc je pouvais faire des bâtiments de très bonne qualité avec un comportement des habitants qui permettait une meilleure santé. Et maintenant, en même temps, il y avait moins de stress. Moins de stress pour les occupants. Tout ça, c'est ajouté. Mais après, je n'ai pas pu aller plus loin. Alors, mon premier chantier était une école. Un de mes premiers chantiers était une école. Une école maternelle et une maison de quartier à Colomiers. Dans cette maison, dans cette école, de ce bâtiment, j'ai posé des questions sur le comportement des enfants dans une école en terre. Elle est affichée là. Voilà le bâtiment là. Voilà le bâtiment extérieur et voilà le bâtiment intérieur. Il est fait que de voûtes de coupole. Donc c'est un bâtiment très sophistiqué au niveau architecture, parce que la terre le permet, hein, c'est très facile. Faire des voûtes, c'est facile, les coupoles, c'est facile, hein, un peu d'entraînement. Voilà, fait un bâtiment d'une excellente qualité visuelle. Et en réalité, la directrice, qui était directrice de plusieurs écoles, disait « C'est ici que j'ai le moins d'absentéisme. C'est dans ce bâtiment que j'ai le moins d'absentéisme du personnel. » On se rendait compte que la terre avait une incidence aussi sur le comportement. Les enfants étaient moins énervés, ils se reposaient mieux, et tout le monde était apaisé. C'est comme vous êtes très... Ah oui, voilà, c'est ça. Vous pouvez vous rapprocher. Vous avez entendu ce que j'ai dit, hein, je répète là. C'est vrai. Donc je prends conscience officiellement qu'il y a une relation entre la médecine et l'architecture. Cette relation entre la médecine et l'architecture, elle n'est pas toujours évidente, elle n'est toujours pas acceptée. Quoi. Et je vais faire une expérience, actuellement je prépare une expérience par rapport aux électrosensibles. Je suis en train de faire une coupole en terre de 350 mm, dans lequel on fait des expériences de vide électrosensible. Parce qu'effectivement, maintenant, il y a des maladies nouvelles qui apparaissent, et en particulier, c'est des maladies électrosensibles. Donc je reviens derrière. Donc mon premier bâtiment d'architecture de terre était une école. Et ensuite, donc, j'ai pu faire des bâtiments plus importants, comme l'IUT de Bagnac, qui est un bâtiment de 5000 m2. Dans lequel on a fait des voûtes de 53 mètres de long, des amphis avec de la terre, etc. Et lorsque je suis retourné une vingtaine d'années après, j'étais voir le directeur. Le directeur, il m'a accueilli, il m'a dit, monsieur, je vis dans un bâtiment extraordinaire. Je n'ai pas d'entretien. Les étudiants ne dégradent pas. Dans les écoles, il y a beaucoup de labor, il y a beaucoup de dégradation dans les titres. Et dans les unités de manière, il n'y a pas de dégradation. Comme c'est beau comme architecture, il y a du respect. Il y a du respect pour le bâtiment, ce qu'il n'y a pas dans les autres bâtiments. Et donc je me suis lancé dans une voie où je suis très seul, en fait, hein, parce que cette relation architecture et santé, elle n'est pas correcte pour la majorité des personnes. Hein. Mais j'insiste là-dessus. Et si les gens qui pratiquent du feng shui le savent, en fait. Hein. Ils savent que, en fait, le corps humain, on ne fait pas une maison, c'est une maison, c'est pas une image, quoi. On en fait une analyse du paysage, et puis ensuite, quand on fait un plan de maison, on se préoccupe des orientations, on se préoccupe de savoir par où il faut rentrer, où vont être mis les chambres, etc. On s'intéresse aux énergies qui viennent de l'univers. Comme dans le Watsu. Dans le Watsu, on dit par exemple, il vaut mieux vivre dans un taudis que dans vivre dans une maison bloquée. Alors si vous regardez les maisons qui ont été actuellement, les immeubles, ce sont des immeubles bloqués. Hein. Il n'y a plus de relation avec l'extérieur. Donc ce sont des maisons qui rendent malades. Qui rendent malades. Et donc, alors j'ai eu l'occasion d'aller à Calcutta aussi. À Calcutta où j'étais dans un ashram de yoga, de Kriya Yoga, sur lequel on travaille sur la respiration et sur le chakra. Et à Calcutta, les gens qui nous avaient invités nous faisaient visiter la ville et puis il y avait un ensemble d'HLM, tout neuf. Et ils me disaient, mais on les a fait ça pour les personnes qui vivent dans la rue, pour les bidonvilles, et les gens des bidonvilles sont venus habiter ici, ils sont restés 6 mois puis ils sont revenus dans les bidonvilles. Les gens qui vivaient dans les bidonvilles, on leur a fait des logements, et lorsqu'ils ont habité ces logements, ils sont restés 6 mois, et puis ils sont revenus dans les bidonvilles. Donc ils avaient une sensibilité, et ils refusaient de vivre dans des bâtiments bloqués qu'on leur proposait en béton. Hein. Donc les architectes ne connaissent pas ce phénomène-là. Ça vous fait sourire. Hein. Non, mais c'est en fait ce que l'on fait toujours encore. Quoi. Encore, on ne se préoccupe pas de ça, on se préoccupe du prix du bâtiment, on se préoccupe de ce qu'ils vont faire, on fait des marchés pour les multinationales, c'est ce qui compte. L'humain n'a pas beaucoup de place. C'est le minimum, mais il ne faut pas rester dans des maisons HLM telles qu'on les fait actuellement. Donc j'ai fait des HLM à de la terre. J'ai fait des opérations de 32 maisons dans le temps avec des murs chauffants en terre. Et là, effectivement, on se rend compte que les personnes qui vivent dans ce mouvement, ils ont un autre comportement. Ils sont moins malades, ils ont un autre comportement. Ça a été un succès, mais qui n'a pas été répété. D'accord, après, on est revenu, les maîtres d'ouvrage HLM, ils ont continué à refaire des maisons comme avant. C'était temporaire, alors, comme un accident, quoi, parce qu'on avait gagné un concours, donc on a fait selon les règles du concours, mais après, il n'y a pas eu d'habitude qui a été reprise par les bâtiments HLM. Et voilà, et donc, moi, ce que je regrette, parce que j'essaie de prendre des contacts avec les médecins, les impliqués dans la programmation des travaux, moi, je pense que lorsque, par exemple, on fait une école maternelle, on devrait avoir dans les personnes qui vont participer à la programmation, il faudrait qu'on ait avoir un pédiatre, il faudrait alors qu'on ait un géobiologue, parce que la géobiologie c'est un rôle important aussi, il faudrait qu'on ait un expert French, etc. Il faudrait qu'on ait des gens qui aient une vision plus large pour s'occuper du vivant. On ne s'occupe pas du vivant. On s'occupe de quelque chose de matériel, on oublie le vivant. C'est la raison pour laquelle moi je pense que la mauvaise qualité des constructions joue un rôle très important dans les maladies actuelles qui se manifestent actuellement. Voilà. Et donc, nous, on continue notre démarche, mais en même temps, la démarche que j'ai, quand je suis dans le secondaire, je suis à la retraite, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la relation entre médecine et habitat avec des gens, des personnes qui ne sont pas des musées officiels, mais qui sont des courants des rois. J'appelle ça les courants des rois. Des médecins non officiels, donc vous comprenez ce que je veux dire, les guérisseurs, voilà. Et donc on va essayer, on va faire des expériences là-dessus, de telle sorte qu'on puisse dire, vous construisez en terre, voilà les améliorations que vous allez avoir, mais qu'elles soient officialisées. Il y a une deuxième chose aussi qui va transformer la réglementation thermique. C'est que nous avons fait des expériences sur des murs en terre extérieure. D'abord, on avait fait des murs en terre, des murs en terre chauffants à l'intérieur, qui donnaient un climat très agréable, et une hygrométrie agréable, et un comportement aussi apaisant. Et là, on s'est rendu compte, en mettant les murs extérieurs chauffants, que les murs isolés et pas isolés, il n'y a rien de différent. Donc l'isolation ne servait à rien. Donc ce qui changeait complètement toute la réglementation thermique. Puis quand on regarde les coefficients thermiques des matériaux, ça ne correspond pas. Donc actuellement, on est en train de terminer une expérimentation avec l'humidité, où on a mis une brique en terre crue avec des sondes de pression, de température, et on mesure l'intérieur et l'extérieur, et on mesure les températures de condensation. Si vous voulez, quand vous faites un mur chauffant extérieur, vous créez une lame d'air chaud, et plus la lame d'air est chaude, plus elle a une capacité de prendre de l'humidité. Et cette humidité atteint une tension importante, cette humidité va aller du côté où la tension est la plus faible, c'est-à-dire elle va aller de l'extérieur. Et la lame de l'air extérieur, elle va se condenser dans les lames mêmes d'argile. Les argiles, c'est un millefeuille à l'échelle nanométrique. Et un gramme d'argile, c'est 40 mètres carrés de surface, de 40 mètres carrés à 130 mètres carrés. Mais dans cette dimension-là, les pressions sont énormes. Avec des pressions énormes, on peut voir la condensation, la température ambiance. Donc on produit de l'énergie. Donc les murs que j'avais fait, ils avaient la même température parce qu'effectivement, on produisait de l'énergie gratuite par la condensation. Là, on est en train de finaliser cette recherche qui va tout transformer, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? La respiration, tout ce qui se passe dans un bâtiment, toute la production d'humidité qui est liée dans le bâtiment, elle sert de carburant. Un carburant naturel. Et en même temps, il y a une autre interrogation sur laquelle on travaille, c'est comment se fait-il que lorsqu'on a une maison en terre, il n'y a pas d'odeur. Donc la terre a de la succion. La succion, elle a une succion, elle fait une heure de succion, et elle a d'absorption, et deux heures de résorption. Donc elle va garder une heure les produits, puis elle les résorbe. Dans l'air qu'on emplit, trois heures après, il est rejeté à l'extérieur. Mais ce qui est rejeté à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est sans odeur. Il se passe des phénomènes à l'intérieur, de la terre qui transforme la qualité de l'air intérieur. L'air pollué intérieur ressort non pollué. Alors qu'est-ce qui se passe pour les milieux extérieurs? Quand on a des milieux extérieurs, l'air absorbé est rejeté à l'extérieur par perspiration, et l'air extérieur, on veut savoir quelle est la qualité de l'air extérieur. Si effectivement, comme on le croit, que l'air extérieur est dépollué, c'est une décision assez considérable, parce que quand on fait des maisons en terre, on va dépolluer l'air intérieur et l'air extérieur. C'est une chance fabuleuse. Ouais. Et en éliminant donc, tous les appareils, les VMC, SAPFU, WFU, etc. Ouais. Donc c'est une chance extraordinaire. Voilà. Et en même temps, alors, en parlant de matériaux aussi, j'ai une expérience du chamanisme, là. J'étais 3 ans en Amérique du Sud, là. Et j'ai fait du chamanisme, bien sûr. Et en même temps, j'ai eu une petite idée de ce qui s'est passé, parce qu'en fait, quand on faisait du chamanisme, là, on faisait des marches, des grandes marches, et elle nous faisait faire un inspire et deux expires quand on voit, deux expires, deux temps, deux expires, un temps d'expire, deux temps, deux expires. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans la terre. La terre, ça veut dire un temps d'absorption, deux temps de résorption. temps, on voit bien que ces civilisations-là avaient un rapport avec la Terre. Ils allaient faire le lien, ce lien qu'on a complètement perdu. Donc on est une civilisation dégénérée, donc, par rapport à dégénérée. On l'a perdu, on a tout perdu. Donc, il faut maintenant, progressivement, retrouver toutes ces valeurs qui ont été rejetées, et on a tout pris tardement, hein, parce que quand on voit l'Inquisition, on voit que c'était dur, hein, c'était très dur. Là maintenant, on voit qu'il faut refaire des bâtiments pour les vivants, pas pour faire des surfaces habitables. Et il faut faire des bâtiments pour les vivants, avec des nouvelles techniques. Donc les résistances de connu jusqu'à présent, ben, elles vont tomber, parce que bon, si on ne va pas le faire en France, on ira le faire en Allemagne, on ira le faire en Espagne, on arrivera maintenant, si on a une validation scientifique du comportement des nouveaux comportements des terres, ben, ça change tout. Bon, ouais. Donc toutes les valeurs qu'on a mis en place, toutes ces réglementations, qui sont des réglementations d'ingénieurs, elles ne marchent pas, elles ne suffisent pas. Il faut donner de l'espace. Il faut donner de l'espace à tout ça pour mettre du vivant là-dedans. Quoi. Et ce vivant, on le rejette, parce qu'en fait, un ingénieur, il n'ira pas discuter avec le médecin, mais alors avec le guérisseur, encore moins. Quoi. Donc là, vous voyez, on est toujours dans des choses qui sont figées, et il nous faut maintenant changer d'orientation. Ces changements d'orientation, elles doivent se faire actuellement. Voilà. Mais si vous me posez des questions, je vous réponds mon élément. Hein. Les orientations, les couleurs. Quand dans le feng shui, il y a des couleurs et des orientations. Le sud, c'est rouge, le nord, c'est bleu foncé, noir, l'est, c'est vert, etc. Donc, il y a cette relation avec la nature, avec les couleurs, avec les matériaux. Avec les matériaux. Dans la méditation, c'est différent, on respire sur les chakras. On respire sur les chakras. Et le premier chakra, c'est Saturne. Saturne, c'est le plomb. Le deuxième chakra, c'est l'étain. Le troisième chakra, c'est le fer. Le quatrième chakra, c'est le cuivre. Vous voyez, il y a toujours une relation. Le cinquième chakra, ça peut remettre ses métals. Mais voilà, il y a toujours. On se met en relation avec des choses vivantes à l'extérieur. On les part, on se déferme, on s'ouvre notre bras, on va voir les choses. Et cette façon de voir les choses, elle apaise, elle rend moins malade. Et donc c'est une façon aussi de retrouver de la santé au niveau, à tous les niveaux. Et non de se confiner dans une vision que l'on a actuellement, où on fait marcher les laboratoires pharmaceutiques. Donc il faut rejeter ça, mais il ne faut pas le rejeter que comme ça. Il faut rejeter si on change notre façon de vivre, si on change notre environnement. Et l'architecture, c'est un moyen extraordinaire pour changer notre environnement. Voilà. Alors quand vous construisez, pensez à mettre dans la terre. Ou vous dites, moi je voudrais m'orienter dans cette orientation-là. Quoi. Quand j'avais des maisons en HLM, on a fait des HLM avec la terre deux fois. Mais on l'a fait deux fois. Donc pourquoi pas c'est notre fois? Il y a plein de raisons politiques, etc. Mais on sait que les choses ne sont pas claires derrière tout ça. Quand les marchés, c'est pas très clair. Mais voyons, si on impose de la terre, on pourrait arriver à avoir une autre qualité de bâtiment. Une maison bloquée. Une maison bloquée, c'est des maisons où il n'y a pas de perspiration, en fait. Les murs ne perspirent pas. Or, on dit que le qi traverse difficilement les murs en pierre très lourds ou le mur béton, et par contre il est pratiquement transparent par les murs en bois ou les murs en terre crue. Donc on n'est pas dans une maison bloquée. Et le qi qui est nécessaire à la vie, c'est la source de toute vie. Ce qui, on en a besoin pour notre santé.
Alors moi j'ai plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce qu'il n'y a pas un manque au niveau déjà de l'école d'architecture par rapport à ça, à ce type de construction?
Alors, s'il vous plaît, c'est un problème que je connais totalement, parce que tous les ans je fais une offre de formation sur la terre crue, et tous les ans on me dit refus. Quoi.
Donc,
il y a une volonté nationale d'exclure la terre crue de l'enseignement, c'est évident. Je reçois malgré tout des stagiaires l'été qui viennent, qui font le choix de venir faire notre vérité. Hein. Mais officiellement, c'est pas présent. Quoi.
Alors moi, pour avoir fait l'école d'architecture, je sais très bien que ça n'a jamais été, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir eu ça. Je n'ai pas été à l'école d'architecture à Toulouse.
Je sais pas.
À l'école d'architecture, j'ai fait les cours.
Oui. Peut-être pour l'école d'architecture.
Et on n'a jamais eu cette proposition-là, effectivement. Après, l'autre question que je me pose, c'est quand on travaille en agence, on ne fait pas cas de ça. La seule chose qui est rentable, c'est de travailler vite, le plus rapidement possible, que ce soit remonté rapidement. Il n'y a que ça qui compte, on ne parle de rien d'autre en fait.
Je ne comprends pas. Vous voulez me le dire, je n'ai plus de problème de rien. Appuyez-le.
Qu'en agence d'architecture, la seule chose qu'on nous demandait, c'était d'aller vite. À la rigueur, de faire moitié bien, on n'en avait rien à faire, parce que tout se mettait sur le chantier. L'intérêt, c'était que les promoteurs gagnent de l'argent. Je suis désolée de le dire, mais les architectes le cautionnent aussi. Ceux qui sont en lien avec ça, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais moi j'ai travaillé beaucoup dans la promotion immobilière. Et en plus, on nous montre énormément d'images d'architecture belles, avec du béton, du verre, tout ça sur de belles lumières, il n'y a que ça qui compte en fait. Donc tout le reste, on ne nous en parle jamais. Donc quand vous dites que vous avez fait des propositions à l'école d'architecture, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. Et la petite parenthèse.
Il y a des recherches par rapport à...
Maintenant peut-être, mais moi je ne suis pas de maintenant.
Ça fait plus de 10 ans.
Moi j'ai fait l'école d'architecture ici, je suis diplômée il y a plus de 10 ans. Et je ne me souviens pas qu'on ait parlé de ça. Par contre, petite parenthèse faite, moi je travaillais beaucoup sur la psychologie de l'environnement, la psychologie de l'espace, le feng shui, les cinq sens, et souvent on pensait que ça ne tournait pas très rond. Quoi. Voilà. Donc je viens confirmer. Et je suis ravie d'être venue, parce que je ne pensais pas que c'était vous qui étiez là, et moi je vous ai connu il y a 20 ans. J'étais un architecte intérieur et en fait on avait proposé aux premières années, quand j'étais en deuxième année, de faire un truc de 18 âges et on avait amené les jeunes faire une petite cabane en terre pour les chèvres. Et vous nous aviez montré à l'époque ce que vous faisiez en terre, avec notamment des bouteilles en verre que vous mettiez sur la paroi pour une raison acoustique, enfin pour plein de choses. Et vous nous aviez montré aussi, vous nous aviez mis une musique là, c'est chez vous, pour nous montrer l'impact acoustique que ça avait. Voilà. Merci à vous.
Vous dites que vous allez faire un petit peu des recherches par rapport aux personnes qui sont électrosensibles et faire des expériences par rapport à la Terre. Est-ce que ça peut bloquer les ondes? Et moi, j'ai travaillé pas mal en bâtiments qui ont été faits avec du chanvre, donc c'était chanvre chaud, on était de la bouzolane, d'autres matériaux, pour faire des... alors c'est pas de la brique, mais c'était carrément de la matière. Et par exemple, on faisait passer les conduits électriques à l'intérieur de cette matière qui pouvait être jusqu'à 25 cm. Et en fait, ensuite, on n'arrivait pas à retrouver où passer l'électricité. C'est-à-dire que cette matière bloquait tout ce qui est électromagnétique. C'est assez intéressant. Et les gens qui habitent dans des habitations comme ça sont soignés, enfin, sont rarement malades. Et pour les gens qui sont électrosensibles, ils sentent vraiment la différence. C'est aussi intéressant.
Ce qui est des particulier avec une coupole, c'est que c'est une onde de forme. Une onde de forme qui était puissante. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on les utilisait dans les bâtiments religieux à l'époque, musulmans ou chrétiens. Donc c'est une volonté de faire un bâtiment avec une onde de forme importante et qui peut peut-être protéger des champs électromagnétiques. Vous voyez. Je vais utiliser l'onde de forme. C'est un essai, oui, c'est là pour l'onde de forme est très importante.
Merci.
Et en plus, dans le matériau qui est un matériau avec, s'ajoute à l'onde de forme. Voilà. Et en même temps, le bâtiment, selon le Watsu, il est éclairé, il est ouvert simplement à l'est. Et nous vont.
Donc, avec Joseph et Luité de Blagnac, on est en train de faire une expérience pour essayer de voir en fait. Joseph a un système de mur chauffant en fait, dans lequel des tuyaux en fait, reliés à une chaudière, comme un système de plancher chauffant mais au mur. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, en chauffant ce mur, il y a à l'intérieur du mur une lame d'air à sa surface qui est créée par ce chauffage. Et cette lame d'air, en fait, appelle la vapeur d'eau en fait sur le mur. Cette vapeur d'eau va venir traverser le mur et en rentrant dans le mur en fait, cette vapeur d'eau elle va se mettre à se condenser. En changeant de phase, l'eau, en fait, elle va libérer son énergie, donc des calories. Et donc là, avec l'humidité, ce qu'on essaie de démontrer, voilà, c'est quelle énergie et quelle énergie est créée grâce à ce phénomène. En fait. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que justement, c'est sur d'avoir un mur avec une grande différence de température entre l'intérieur et l'extérieur augmente cet effet. Et donc des murs qui seraient positionnés au nord, par exemple, avec une grande différence de température, augmenteraient ce phénomène. Et on s'aperçoit que c'est possible que les déperditions de ce mur en fait sont inférieures à l'énergie créée par en fait cette condensation, ce changement de phase dans le mur. Et donc il devient inutile en fait, et au contraire c'est d'isoler ce mur en fait. Donc voilà, ça c'est une recherche qu'on est en train d'effectuer avec l'UIT de Blagnac qui donnera prochainement des résultats.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait ce sera l'orientation nord qui sera la plus favorable. Et c'est là où il y aura le plus de production de chaleur, c'est là où il y aura le plus de différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est vraiment là où on a les besoins les plus importants. C'est parce qu'au sud, on a des apports solaires, mais au nord, on n'a aucun apport solaire. Et là, c'est au nord, il y a les transferts les plus rapides. Plus il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, plus les transferts sont rapides, plus les apports d'énergie sont
durables. Le mur dont vous avez parlé, quel est le constituant? C'est la terre? Que la terre. Et l'épaisseur?
23
cm à Blagnac.
Non, là, c'est l'expérience actuelle, elle est faite en ce moment sur un frigo. En fait, on a pris un frigo dans lequel on a mis une brique pour faire une différence de température, dans laquelle on a mis des capteurs d'humidité, de pression et de température. Et là, par la suite, on va venir mettre les capteurs en fait sur un bâtiment à Joseph, au centre de terre, voir à la période de chauffe en fait avec la chaudière cet effet. Parce que là, actuellement, sur le frigo, on n'a pas ce système de chauffage. On est juste vraiment sur une différence de température sur la brique entre l'intérieur et l'extérieur, qui crée déjà un transfert d'humidité en fait à travers la brique. Donc on est sur de la terre crue, elle est stabilisée à 3% à peu près de chaud et rien d'autre. Voilà. Comment ? Oui, c'est de la BTC, c'est compressé à la main, avec une presse manuelle.
Vous devez avoir des différences de résultats en fonction de la terre utilisée peut-être. C'est intéressant aussi à...
Il n'y est pas encore, mais oui, il risque d'y avoir avec les différents argiles en fait. Voilà, puisque les argiles sont vraiment différentes.
C'est une première expérience, certainement qu'on en fera sort différentes avec différentes argiles, différents stabilisants. En fait, c'est la première étape en fait. Et on cherchera que ce soit la meilleure façon de construire les argiles, les constitutions des argiles, pour augmenter ce phénomène-là, c'est clair. Et en même temps, la surface avec plus ou moins gaz, c'était avec des trous, etc. Si on doit freiner plus ou moins l'air ascendant, il y a plein de paramètres là, sur lesquels encore on peut jouer. Là, ça, c'est la première approche. Hein. Et il est évident qu'on va aller beaucoup plus loin.
Parce qu'on peut trouver dans le monde entier des habitants anciens en terre, ils dorment super bien dans leur maison.
Ah oui, les apprécient dans le monde entier. Quoi. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que actuellement, on a une nouvelle vision de la terre. Il y a une ville, on appelle ça la science des matériaux granulaires. Auparavant, on ne connaissait pas. Il y a ces progrès qui ont été faits avec le microscope électronique qui nous permet d'avoir un autre regard sur la Terre à l'échelle nanométrique. Ce qu'on ne pouvait pas avoir maintenant, c'est ce que les ancêtres pressentaient. Ils le pressentaient. Donc, c'est cette. On n'aurait plus qu'à vivre le plus capable de pressentir. Mais par contre, on a des études scientifiques qui peuvent prouver que ça existe.
Si jamais on a un projet de construction en terre, j'en ai pas encore, mais c'est en maturation, on peut vous contacter directement si, pour avoir des conseils. Si on veut faire un projet de maison en terre, on peut vous contacter.
Ce n'est peut-être pas moi qui dessinerai, mais je conduirai le projet. Mais en même temps, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre l'architecture à du vivant, ce qu'on a oublié de faire depuis des centaines d'années. L'argile, c'est un matériau vivant qui ressemble à l'humain. Et donc, elle peut aider l'humain plus que le médicament actuel. L'architecture peut jouer un nouveau rôle par rapport à la santé.
Cette école que vous avez fait le premier projet, tu vois que le plafond, il est en forme de arche. Et c'est en terre. Vous l'avez fait comme ça
Non, c'est en brique de terre. Et c'est des voûtes de terre, des voûtes en terre en fait. Des voûtes en terre. Il y a une technique qui s'appelle la technique libyenne sans coffrage. En fait. La technique libyenne sans coffrage, elle utilise la capacité de succion du liant qui fait qu'il colle sur la brique précédente. Donc on fait des successions de briques qui se collent les unes aux autres. C'est une technique qui est relativement rapide, aussi rapide que la montée des murs.
C'est une technique en Égypte, ils ont appliqué à ça. Il y a un architecte qui s'appelle Hassan Fati.
Oui. On est des enfants de la sympathie.
Ah, d'accord.
Il est mort. Il est
longtemps.
Pour l'histoire, je vais inviter à Sainte-Fati à l'inauguration du centre de terre. Et à Sainte-Fati, qui avait fait une réunion auparavant en Corse, il était trop fatigué pour se déplacer. On avait invité à l'inauguration du centre de terre. Donc, c'est vraiment le maître à penser.
Oui, c'est génial. Et
enseigner
pour les peuples, pour...
Mais je pense que la santé, cette notion en même temps de relation avec la santé, il l'avait peut-être, mais pas comme on le voit maintenant. On voit des incidences directes, des scientifiques. Alors que la santé, il n'avait pas, les outils qu'on a actuellement. Actuellement, il a des outils extraordinaires qui peuvent obliger à faire comprendre que ces choses-là existent. Et alors, la santé, il a eu une profession où il a été ridicule, on a se moqué de lui, enfin, c'est-à-dire il a fait un métier et il voulait pas.
Oui, c'est extraordinaire, je suis allée voir ce qu'il a fait. Comme il y a beaucoup des insectes en Égypte, pour l'éviter, il a mis la partie le lit, qui était en partie de mur en terre, il a mis ça dans un bassin d'eau. Comme ça, les insectes ne montent pas dans le lit. C'était très intelligent, cette manière, pas chère, mais il a trouvé la solution.
Mais je voudrais me rappeler que le village de Gouda qu'il avait fait, les gens qui habitaient, ils ne pouvaient pas se déplacer dans la maison. C'est c'est ça, il a été rejeté par les habitants qui étaient des violeurs de Tongue.
Oui, c'est ça.
Ils refusaient d'aller habiter dans un nouveau habitat. Donc il a fait ce travail pratiquement pour la postérité, mais pas pour les futurs habitants.
Mais en tout cas, il y a ce village qui est encore en forme. Il y a des marchés, il y a le théâtre extérieur et sa maison aussi dedans. Vous étiez très fiers de ça pour le montrer à l'étranger.
Cette fois-ci, il y a une bouquin qui s'appelle « Bâtir avec le peuple », qui était dans les années 68, oui. Qui était très répandu, qui est disparu, et maintenant qui est de nouveau réédité.